Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet autre numéro de ce magazine. Nous évoquons la 47e session de l'EPU, l'examen périodique universel prévu du 4 au 15 novembre prochain et dont la pré-session du 27 au 30 août dernier s'est achevée ici à Genève. La RD Congo et la Côte d'Ivoire y seront examinés le 5 novembre prochain. En attendant, des ONG issues de ces deux pays viennent de participer donc à cette pré-session EPU 47, toutes deux partenaires du réseau du Bureau international catholique de l'enfance. Dans ce volet de cette émission que nous y consacrons, nous prenons le cas du rapport de la Côte d'Ivoire. Celui-ci met en lumière les efforts entrepris par le pays pour améliorer la justice réparatrice pour les enfants et les conditions de détention des mineurs en conflit avec la loi. L'accent est également mis sur la mise en œuvre du travail d'intérêt général en tant qu'alternative à la privation de liberté pour les enfants, conformément aux engagements internationaux du pays. Malgré des avancées, plusieurs défis persistent, notamment l'opérationnalisation des mécanismes liés aux tiges et l'amélioration des conditions de réinsertion des mineurs détenus. Ce rapport appelle à une action urgente pour renforcer les structures existantes et assurer une justice plus efficace et humaine pour les enfants en Côte d'Ivoire. Avec nous, Eric Memel, au siège du Bureau international catholique de l'enfance ici à Genève, coordinateur de programme au sein de l'association DDECI, partenaire local du BIC. Bonjour Eric Memel.
Bonjour Epiphane.
Quelles sont les raisons de votre présence ici à Genève ?
Il faut dire que ma énième présence à Genève s'inscrit dans le cadre de l'examen périodique universel. La Côte d'Ivoire sera examinée cette année par le Comité des droits de l'homme. Et donc nous, en tant qu'acteurs des droits de l'enfant, il est urgent pour nous d'être à Genève pour porter un peu la voix des enfants, faire cas également des défis en matière de protection des droits de l'enfant. Et également, en dehors de cette pré-session à la 47e session du groupe de travail, ma présence également s'inscrit dans une logique de m'imprégner un peu du travail d'intérêt général. Il faut dire que dans le cadre du programme Enfants sans barreau 3, qui fait la promotion des alternatives, est inscrit en pôle la question du travail d'intérêt général qui, pour nous, reste une des meilleures alternatives à l'emprisonnement des enfants. Malheureusement, notre État, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, a pris des tests en la matière. Il y a un décret, bientôt un arrêté. Mais au sens de l'opérationnalisation, c'est là que les choses coincent. Oui, nous avons pris connaissance avec les autorités. Nous avons compris que les autorités n'avaient pas suffisamment de connaissances, même de compétences pour la mise en œuvre de cette alternative. Donc, également, notre présence également s'inscrit dans cette droite ligne-là, nous imprégner du travail d'intérêt général qui est pour nous une alternative à l'emprisonnement des enfants.
On va revenir ici et là sur les quelques points de la note de synthèse que vous avez présentée tout à l'heure. Au moment où nous enregistrons, nous sommes jeudi 29 août, où vous avez présenté justement au Palais des Nations lors de cette pré-session. Quels sont les principaux défis que la Côte d'Ivoire justement rencontre dans la mise en œuvre du travail d'intérêt général pour les enfants en conflit avec la loi ?
Tout à l'heure, je l'ai dit, aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est entourée d'un cadre normatif assez enrichi. Et donc, quand on parle des cadres normatifs, je vais citer le décret numéro 2021 du 26 mai 2021, déterminant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. Et bientôt, nous avons également l'arrêté numéro 045 du 30 mars 2023 portant nomination des membres du Bureau de coordination de la politique nationale en matière de travail d'intérêt général, en abrégé BETIC. Comme je l'ai dit, au plan normatif, le pays, ça va. Mais c'est dans le cadre de l'opérationnalisation. Nous disons que oui, c'est bien vrai de prendre les lois, mais c'est encore mieux de les mettre en œuvre. Donc notre présence ici, dans le cadre du plaidoyer, d'abord, c'est voir, essayer d'échanger avec les États pour que lors de l'examen de la Côte d'Ivoire, cet aspect soit vraiment pris en compte. Voilà, que la Côte d'Ivoire soit vivement encouragée, en plus du cadre normatif, à opérationnaliser le travail d'intérêt général. Et bien sûr, il y a la nomination des membres, il y a également le bureau national qui est créé par arrêté, mais il est vraiment important que ce bureau puisse vraiment fonctionner et qu'il parle de fonctionnement, parle d'une allocation de fonds suffisants pour sa bonne mise en œuvre, pour son bon fonctionnement. Et donc, le plaidoyer s'inscrit dans cette ligne-là, dans cette droite ligne. Donc, c'est le premier axe. Le second axe pour nous également, qui s'inscrivait au cadre, dans le cadre du plaidoyer également, c'est une amélioration des conditions de détention. Qui parle des conditions de détention parle un peu d'un mieux-être des enfants aux mains de justice. C'est vrai, récemment, nous avons félicité l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu faire sortir le centre d'observation des mineurs de la grande prison d'Abidjan, qui aujourd'hui on parle de pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est un acte louable, mais malheureusement, il y a encore des enfants qui sont détenus, qui malheureusement, les conditions de détention sont les plus sont difficiles, sont les plus pénibles. Donc nous avons jugé que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de politique nationale de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. C'est une politique qui a déjà été élaborée avec toutes les parties prenantes, l'État, les ONG, nous avons actualisé récemment, nous l'avons toiletté, mais malheureusement c'est pas encore adopté en Conseil des ministres. Et donc ça fait que nos craintes à ce jour est que les services de la protection judiciaire sont créés par un arrêté. Donc qui parle d'arrêté parle un peu d'un cadre assez limité. Voilà, du jour au lendemain, c'est des choses qui peuvent disparaître. Et également, derrière ça aussi, créé par arrêté, parce qu'il n'y a pas vraiment de loi organique, voilà, il n'y a pas de...
Vous souhaiteriez que ce soit le législateur qui prenne cela en compte ?
Très bien. Une politique nationale de protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse qui va voir le jour avec une allocation de ressources. Voilà, nous disons que par là, les enfants seront mieux traités, les services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse pourront mieux fonctionner et mieux répondre aux besoins de ces enfants aux mains de justice. Donc ça fait partie aussi d'un point de notre présence ici, l'adoption en Conseil des ministres de la politique nationale de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous pensez que les travaux d'intérêt généraux peuvent être une solution à la surpopulation carcérale pour les enfants, et quelles solutions pourraient être envisagées pour y remédier?
Epiphanie, je dirais plus que ça. En plus de régler d'abord la question de la suroccupation des cellules, déjà, le travail d'intérêt général également contribue à réparer et réparateur. D'abord, ça continue d'abord à resocialiser le mineur, parce que de par un travail en dehors de la prison, mais par le travail d'intérêt général, l'enfant va apprendre. Il y a là l'acquisition de compétences pédagogiques. Il va réparer sa faute, mais également il contribue vraiment au développement de la société, de la communauté. Et là également, il y a l'évitement de la prison. Donc c'est à ce juste titre-là que nous pourrons dire oui, le travail d'intérêt général est une alternative. Je dis pas que c'est la meilleure alternative, mais c'est une alternative qui a sa place parmi les alternatives à l'emprisonnement, parce que tout à l'heure j'ai cité un peu les bienfaits, les effets positifs, d'abord la réparation, l'enfant, il prend conscience, il y a encore le volet pédagogique parce qu'il y a l'acquisition de compétences nouvelles, et l'enfant là, apprend de ses erreurs, et là, nos prisons là, l'enfant n'ira pas en prison, ça veut dire qu'il ne sera pas en contact avec tout ce qu'on connaît comme défi en prison, et il pourra se resocialiser. Et donc, vivement qu'il va falloir vraiment encourager le travail d'intérêt général.
Qu'en est-il du centre de réinsertion pour mineurs de Dabou?
Ah oui, le centre de réinsertion pour mineurs de Dabou, aujourd'hui, j'avais oublié cet aspect-là. C'est un centre, c'est le second centre de l'État. C'est le premier. Après celui de Dabou, nous avons eu en 2018 le centre de réinsertion pour mineurs de Boaké qui a été construit. Mais le centre de réinsertion des mineurs de Dabou fait face à un manque criard d'équipement. Voilà, c'est le plus vieux centre, je sais que ça date des années 60, ça a été créé, ça avait été aménagé et à réhabiliter, mais à la faveur de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, le centre, tout le matériel qui avait été mis à l'expérience du centre, tout ce matériel a été pillé. Donc aujourd'hui, c'est un centre avec juste des bâtiments, un centre quasi vide, avec des bâtiments qui accueillent chaque année des enfants pour leur resocialisation. Malheureusement, en l'absence de matériel didactique, ce centre n'arrive pas à répondre à son objectif premier qui est de donner des compétences aux sous-poussins de ces enfants-là. Et donc, nous disons qu'il va falloir un réel plan Marshall. J'ai parlé de plan Marshall parce du fait du caractère de l'urgence même. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de matériel. Il va falloir un plan Marshall d'équipement de tous les ateliers. Les ateliers, là-bas, nous avons un bâtiment pour accueillir l'atelier de menuiserie, il y a la coiffure, il y a la mécanique, il y a l'élevage. Mais aujourd'hui, tous ces bâtiments sont pratiquement vides. Donc, l'État peut compter sur les ONG, notamment Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, à la faveur du programme Enfants sans barreaux, mais nous disons que ça ne suffit pas. Il va falloir que l'État lance un véritable programme, projet de réhabilitation de ce centre-là qui mérite, comme je l'ai dit, c'est le plus vieux centre de Côte d'Ivoire.
Pour revenir à la surpopulation carcérale, est-ce que le fait de respecter, le fait que votre pays respecte les délais légaux de détention des mineurs pour éviter les prolongations abusives pourrait être aussi un remède à la surpopulation carcérale?
Oui, évidemment. Évidemment, le respect des délais légaux va permettre qu'un temps soit peu de dépeupler un peu nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est un réel frein. Aujourd'hui, nous avons un bon nombre d'enfants qui sont dans une période de détention abusive ou encore de détention injustifiée en attente de passer au procès. Et malheureusement, dans l'instruction, les instructions du dossier, ça peut prendre des mois. Et ça fait que, malheureusement, ces enfants sont détenus à attendre. Voilà, c'est là que nous parlons de détention abusive parce que souvent, c'est hors du cadre légal de détention. On parle également de détention injustifiée parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi encore ces enfants sont encore détenus. Imagine un enfant qui est détenu et qui ne sait pas pourquoi, la sentence n'est pas prononcée, la sanction non plus, il est détenu comme ça. Et pendant des mois, et après lui viendront d'autres enfants et tout ceci contribuer à gonfler le nombre des enfants en détention. Donc, nous disons oui, le respect des délais légaux va permettre aux enfants d'être jugés. C'est vrai qu'immédiatement, ça ne va pas régler le problème, mais nous disons que le fait pour un enfant de connaître sa sanction, de passer au jugement, quand même, est de droit. Et donc, de droit, c'est le droit qui doit être respecté.
Tout comme votre consoeur de la BNCE RD Congo, vous avez aussi profité de ce séjour pour faire du terrain?
Oui, nous avons été à Annecy, où nous avons visité l'agence de travail d'intérêt général de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, à l'abrégé ATJIP. Il faut dire qu'en matière de mise en œuvre du travail d'intérêt général, la France est bien avancée. Donc, il était question pour nous de nous imprégner un peu de la faisabilité du travail d'intérêt général. Et donc, nous avons véritablement appris. Donc, nous repartons dans nos pays respectifs très contents parce que nous avons beaucoup appris. Une fois arrivé, nous comptons procéder à la sensibilisation des acteurs sur le terrain parce que, comme je l'ai dit à l'entame, c'est vrai, il y a le dispositif qui est pris, mais aujourd'hui, en termes d'opérationnalisation, la compétence n'y est pas. Et donc, nous saluons vraiment cette initiative. Saluer, profiter de votre micro, saluer le Bureau international catholique de l'enfance qui nous donne cette occasion de pouvoir apprendre auprès de la direction territoriale de la protection du judiciaire, que je salue au passage, Jean-Marc Hénon, Claire le Moine, également Claire Lecoq, qui sont tous deux des référentes du TIG, du travail d'intérêt général, qui nous ont beaucoup appris depuis la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Mais comme elles l'ont dit lors de leur propos, c'est vrai, c'est petit à petit que les choses sont en train de se mettre en place. Nous avons aussi entendu qu'au niveau de la France, également, le travail d'intérêt général est encore nouveau. Donc nous avons appris. Mais il est question, le défi pour nous aujourd'hui est de, une fois rentré, de contextualiser. Voilà, parce qu'il y a aussi le contexte, le travail d'intérêt général au niveau de la France, c'est, bien sûr, ça s'appuie un peu sur le contexte français, c'est vrai. Mais en dehors de ça également, il y a certains aspects qui nous amènent quand même à mener une certaine réflexion. Comment adapter le travail d'intérêt général pour que ce soit, ça intègre nos valeurs, intègre un peu le corpus juridique au niveau de nos pays.
La Côte d'Ivoire sera examinée donc lors de la 47e session de l'examen périodique universel prévu du 4 au 15 novembre prochain. Vous y serez?
Oui, j'y serai. Voilà, je réponds par l'affirmative. Oui, j'y serai parce que c'est une occasion unique. Par l'affirmative, j'y serai pour vraiment défendre, porter au fort la voix des enfants, la voix de ces sans-voix-là.
Merci à vous, Eric Memel. Vous êtes coordinateur de programme au sein de l'association DDECI, partenaire local du Bureau international catholique de l'enfance. Merci pour votre contribution à cette émission, deuxième fois donc. Merci également à toutes et à tous. Belle suite de journée sur Radio Cité Genève, 92.2 FM.